Je voudrais lire une parole de Dieu avant que nous nous levions pour la prière. J'aimerais lire de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, quelques versets à partir du premier. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes et avides d'argent, vantards et hautains, injurieux, désobéissants aux parents, ingrats, impies, sans amour ni fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, hostiles à tout ce qui est bon. Verset 4. Traîtres, légers et sombres, plus portés au plaisir qu'à l'amour de Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la vie de Dieu, mais reniant ce qui fait sa force intérieure. Détourne-toi de tels hommes. Il en est parmi eux qui savent s'introduire dans les maisons et qui cherchent à captiver des femmes qui sont chargées de péchés et qui sont animées de passions diverses, qui veulent toujours apprendre, mais qui pourtant ne parviennent jamais à la vraie connaissance de la vérité. Verset 8. De même que Jannès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ceux-ci s'opposent à la vérité. Des hommes corrompus d'entendement et réprouvés quant à la foi. Verset 9. Mais ils n'iront pas loin dans leur entreprise, car leur stupidité apparaîtra clairement aux yeux de tous, comme cela a été le cas pour ces deux hommes. Mais toi, verset 10, tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite, mes aspirations, ma foi, ma longanimité, mon amour et ma patience, mes persécutions et mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. J'ai eu à supporter toutes ces persécutions et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Verset 12. Ainsi, tous ceux qui veulent mener une vie agréable à Dieu en Jésus-Christ auront à souffrir des persécutions. Verset 13. Mais les hommes méchants et les imposteurs s'y abandonneront toujours, séduisant et étant eux-mêmes séduits. Mais toi, reste fidèle à ce que tu as appris et qui est devenu pour toi une certitude absolu. Tu sais de quel enseignant tu l'as appris, connaissant en effet depuis ton enfance les saintes écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi fondée sur le Christ Jésus. Amen. Peut-être jusqu'ici cette précieuse et sainte parole de Dieu. C'est si merveilleux. Je pense que nous, frères et sœurs, nous sommes tous prêts, ou nous pourrions dire que nous sommes arrivés dans ce temps. Oui, dans la réalité que ces paroles s'accomplissent comme l'apôtre Paul les a écrits ici à Timothée. Lui, en tant qu'homme de Dieu, a certainement pu voir cela de la part de Dieu, et il a vu que le temps est très proche et que tout ce qui est écrit ici va s'accomplir. Et je pense que nous voyons que tout cela s'accomplit. Je ne sais pas, mais je pense que nous ne nous promenons pas avec des bandeaux devant les yeux, Mais nous voyons que Paul aussi, un homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, pouvait prédire les choses, ces choses. Mais il a effectivement mis les croyants en garde sur ces choses et il a clairement fait comprendre à Timothée, son collaborateur, en lui disant, mais toi, tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite, mes aspirations, ma foi, ma longanimité, mon amour et ma patience. Verset 10. Oui, c'est ça. Et je pense que nous ne pouvons pas faire autrement que de nous inspirer de ces hommes qui nous ont précédés, et en particulier prendre notre Seigneur pour modèle, car Paul n'avait pas non plus une position facile, mais il devait passer par de nombreux chemins troubles, par de nombreuses souffrances. Et il raconte aussi ici ce qui lui est arrivé à Antioche, à Icône, à Lystre. Et il poursuit en disant que tous ceux qui voudront, tous ceux qui voudront mener une vie agréable à Dieu devront souffrir les persécutions. Frères et sœurs, ces paroles doivent s'accomplir, car ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Elles sont données, et nous savons qu'elles sont peut-être déjà accomplies au travers des âges, mais elles doivent aussi s'accomplir jusqu'à nos jours. Puisse le Dieu fidèle nous aider à ce que nous puissions rester fidèles. Il est dit ici au verset 14, « Mais toi, reste fidèle à ce que tu as appris et qui est devenu pour toi une certitude absolue. » Amen. Je pense que nous aussi, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous répéter sans cesse que nous voulons rester fidèles à ce que Dieu nous a accordé dans nos jours. Et j'aimerais dire que c'est une grande quantité, certainement. Beaucoup, beaucoup ne le savent pas. Ils pensent peut-être suivre le chemin qui leur a été tracé. Mais nous savons que le Seigneur a été fidèle et que dans sa fidélité, il s'est souvenu de son peuple. Et nous sommes donc reconnaissants pour cette fidélité. Nous sommes reconnaissants qu'il ait eu pitié de nous et nous a donné des instructions pour que nous puissions accepter toutes ces choses et faire ce qu'il attend de nous. Ce verset 14 est particulièrement important. Verset 14 de Timothée chapitre 3. Mais toi, reste fidèle à ce que tu as appris et qui est devenu pour toi une certitude absolue. Oui, et pas seulement cela, mais aussi devenu une certitude absolue. Oui, je pense que pour nous aussi, cette chose ou cette parole, l'évangile et le message de la fin des temps, oui, doivent devenir une certitude absolue. Si ce n'est pas le cas, alors quelque chose ne va pas. Mais cela doit devenir une certitude pour nous. Alors ainsi, que le Seigneur nous fasse grâce ce soir encore, de pouvoir lui rendre grâce, oui, pour cette grâce qui nous a été accordée et pour ce message de la fin des temps. Tu sais de quel enseignement tu l'as appris, la deuxième partie du verset 14. Oui, et nous savons aussi dans nos jours qui nous a parlé. Amen. Puisse le Dieu fidèle être avec nous ce soir aussi. Puisse-t-il nous bénir et avec nous, tout son peuple tout entier. Levons-nous maintenant et adorons le Seigneur. Seigneur, nous venons à toi en cette heure du soir que tu nous as donnée. Seigneur, nous venons tels que nous sommes à toi, ô Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que nous sommes arrivés dans les dernières heures, dans les derniers moments. Seigneur, laisse-nous nous détourner de tout ce qui est mondain. Laisse-nous te regarder, Seigneur, celui qui a commencé et qui achèvera notre foi. Seigneur, que nous puissions nous tenir dans la foi, que ton bon plaisir puisse reposer sur nous, Seigneur, que nous puissions être remplis de ta puissance d'en haut, Seigneur. Chaque jour, nouvellement, Seigneur, remplis ton peuple, remplis-moi, Seigneur, remplis-nous tous. Seigneur, nous sommes venus pour t'apporter, pour apporter à ton précieux nom des remerciements et l'honneur. Seigneur, nous venons aussi avec la requête pour notre sœur Rouchke. Seigneur, ô Sauveur, tu connais les chemins, tu connais le temps et l'heure. Tu sais combien de temps chacun doit séjourner sur cette terre. Ô Seigneur, mais prépare-la, Seigneur. Si tu veux la reprendre, prépare-la, Seigneur, pour ton règne, pour ta gloire. C'est ma prière en cette heure du soir. Et bénis maintenant mes frères et sœurs ici. Bénis-nous tous, Seigneur. Bénis aussi les heures qui sont devant nous. Toutes les réunions, Seigneur. Bénis notre frère Franck. Bénis, ô Dieu, que ton Saint-Esprit descende sur tous. Que ta gloire se manifeste puissamment. Que tu puisses te glorifier, Seigneur, au milieu de ton peuple. C'est ma prière dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais lire une courte parole. Nous avons déjà entendu de la parole de Timothée. Et je vais directement aller à Jean 11. Mais ici, la parole de Timothée parle des derniers temps. Et quand nous lisons cette description dans Timothée, alors vous savez ce que nous devons faire. Nous devons appliquer ce modèle à nous pour voir ce qui s'applique à moi, ce qui s'applique à toi, et cela chacun pour soi. Ce qui s'applique à quelqu'un d'autre, cela ne nous aide pas. À moins que nous sachions exactement ce qui manque à l'autre. Cela ne nous aiderait absolument pas, ni à toi, ni à moi. Sauf si je reconnais ce qui me manque et ce dont j'ai besoin de la part de Dieu. J'ai lu avec tous et j'ai lu de tout cœur. On dit certaines choses des enfants, qu'ils seront désobéissants à leurs parents. Eh bien, c'est vrai, et ça passe avec les enfants. Mais il est également dit que des gens seront égoïstes, avides d'argent, vantards, orgueilleux, injurieux. Qu'est-ce qui s'applique ici à moi, et qu'est-ce qui s'applique à toi? Avec quoi Dieu veut-il m'exhorter? Avec quoi Dieu veut-il t'exhorter? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? J'en suis arrivé à cette conclusion que ça ne sert à rien que sous la prédication de la parole, on taille les choses sur mesure pour les autres. Mais on devrait en effet dire, Seigneur, qu'as-tu à me dire par là? Et aussi, toutes les autres choses qui sont dites dans Timothée, que nous avons lues. Quand il est parlé ici de Jannès et Jambres, qui se sont opposés à Moïse. Et c'est ainsi que les hommes se dressent contre la vérité. Ont l'esprit troublé, réprouvé dans la foi. Oui, qui sont ces gens? Est-ce moi? Est-ce toi? Qui sont-ils? Nous ne sommes certainement pas Moïse. Oui, alors qui sommes-nous? Il y a donc effectivement quelques questions que l'on peut se poser face à de telles paroles. Et puis viennent les paroles adressées à Timothée. Mais toi, tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite, mes aspirations, ma foi, ma longanimité, mon amour et ma patience. 2 Timothée 3, verset 10. Après avoir énuméré toutes ces choses qui dominent les hommes dans ces derniers temps, et celui qui n'est pas dominé par Dieu, est dominé par d'autres choses et ne peut plus se dominer lui-même. C'est une détresse et un état dans lequel personne ne peut céder lui-même. Mais, s'adressant aux croyants, il est dit, « Tu as pris pour modèle, s'adressant à chacun individuellement, tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite, mes aspirations, ma foi, ma longanimité, mon amour et ma patience. Et puis, même mes persécutions et mes souffrances, comme elles m'ont été affligées à Antioche et ainsi de suite. » Et le témoignage final est « Mais le Seigneur m'a délivré de tout. Amen. » Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui ont été délivrés. Amen. Et nous ne sommes absolument pas les seuls qui avons été délivrés. Seule l'Église catholique, qu'elle croit, qu'elle seule peut délivrer ou sauver. Nous ne pensons pas qu'une autre église ou une communauté ne peut pas avoir part à la délivrance ou au salut. Mais nous croyons au contraire que tous ceux que Dieu a destinés au salut seront sauvés. Et ce n'est pas la décision d'un homme. Nous tous, nous pouvons nous réjouir et pouvoir être sauvés par grâce. Mais il est dit ici, s'adressant à des personnes, à toi et à moi personnellement, il est dit, mais toi, tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite, mes aspirations, ma foi, ma longanimité, mon amour et ma patience. Pouvons-nous, puis-je témoigner de cela dans ma vie? Ai-je la foi, la patience, l'amour, dans les persécutions, dans la tribulation, dans les malentendus, dans les hauts et les bas? Ai-je ces choses? As-tu ces choses? Que Dieu puisse accorder cela, que cela soit ainsi pour chacun de nous. Et ensuite il est dit, mais toi, reste fidèle à ce que tu as appris et qui est devenu pour toi une certitude absolue. Il y a des gens, et nous l'avons entendu tout à l'heure, qui veulent toujours apprendre, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance juste. Ils veulent toujours apprendre, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance juste. Parce qu'ils ne sont pas enseignés par Dieu. Parce qu'ils n'ont pas en eux l'enseignant qui est le Saint-Esprit. On a beau enseigner selon la lettre, si le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur, comme enseignant pour révéler l'enseignement divin, alors nous enseignons en vain. Et nous n'arriverons pas à la connaissance absolue de la vérité. Tu sais de quel enseignant tu l'as appris. Fin du verset 14. Et le verset 15 dit, « Connaissant en effet, depuis ton enfance, les saintes écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi fondée sur Christ, le Christ Jésus. » Quelle chose merveilleuse. Je veux dire que nous pouvons dire ce soir, Dieu nous a instruits. Et ce qu'il nous a dit, est devenu pour nous une certitude absolue. La parole de Dieu est certaine. Peu importe ce qu'elle peut être, qu'elle soit difficile à comprendre ou facile, cela n'a aucune importance. Si nous sommes nés de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous enseigne intérieurement, mais nous sommes enseignés selon la parole de Dieu, alors, il y a véritablement des gens, vous n'allez pas le croire, qui sont plus spirituels que nous tous qui sommes assis ici. On peut être seulement dans la prétention. Ils peuvent être dans la prétention qu'ils le sont, c'est-à-dire spirituels. Mais ils le pensent vraiment. Ils en sont convaincus et personne ne peut les en dissuader. Mais les véritables sentiments, les véritables dispositions spirituelles se manifestent là où le Seigneur peut venir à ce qui lui revient de plein droit. Là où sa parole est devenue pour toi et pour moi une certitude absolue. Et nous comprenons que ce ne sont pas des hommes qui ont parlé de leur propre chef, mais qu'ils ont parlé, poussé par le Saint-Esprit. Il est dit de notre Seigneur au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, nous n'y venons pas maintenant, mais plutôt directement au chapitre 11. Mais là, il est dit dans Jean chapitre 3, verset 2, que nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu ou un docteur, car personne ne peut faire les miracles comme ce que tu as fait. Mais ont-ils accepté son enseignement? Non. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Nous savons que tu as un mandat divin. Nous savons que l'enseignement est vrai. Ah, mais ensuite vient le mais. Nous savons bien sûr, nous savons, mais bien que nous le sachions, nous passons à côté. C'est ce qui s'est passé avec Nicodème. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres qui connaissent aussi particulièrement bien les Écritures. Ici, dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 14, il y a l'histoire de Lazare. Et j'aimerais plutôt dire l'histoire de notre Seigneur. Car Lazare vient en deuxième position et Marthe et Marie viennent en troisième position. Le Seigneur vient toujours en première position. Car s'il n'était pas venu, il n'y aurait rien d'écrit dans la Bible à ce sujet. Le Seigneur, amen, amen. Le Seigneur, si le Seigneur n'avait pas été appelé, s'il n'y était pas allé, alors nous ne lirions rien. Il n'y aurait pas de chapitre 11 à lire. C'est écrit uniquement parce que le Seigneur a été appelé, parce qu'il est venu, parce qu'il a fait quelque chose. C'est pourquoi cela est écrit. Sans lui, nous ne lirions rien. Mais il s'agit toujours de lui. Maintenant, il est dit ici, pour être bref, car nous allons bientôt prier. Verset 34, Jean chapitre 11. Il demanda, où l'avez-vous enterré? Ils répondirent, Seigneur, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. C'est le verset le plus court, pour autant que je sache, dans toute la Bible. Jésus pleura. C'est un verset entier. Pour moi, c'est un chapitre entier. Cela lui a l'a tellement touché le cœur. Et ces deux mots forment un verset entier. Jésus pleura. C'est ainsi qu'il a été touché intérieurement. Et il est dit ensuite au verset 36, les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Verset 37, mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas aussi pu faire en sorte que celui-ci n'ait pas besoin de mourir? Et le Seigneur l'a certainement entendu. Et il est dit au verset 38, alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même de manière violente, nous savons que c'est parfois difficile de trouver les mots justes dans la traduction. Ici, le Seigneur n'a pas été dans l'agitation, certainement pas, ou alors hors de lui, mais il était ému intérieurement. Amen. Il était touché intérieurement par ce qu'il a entendu et vu là-bas. Alors, plutôt, on peut dire, frémissant de nouveau, je voudrais dire, de manière violemment émue, intérieurement. Et il s'approcha de la tombe. C'était une grotte à l'entrée de laquelle se trouvait une pierre. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui répondit, Seigneur, il est déjà en décomposition. C'est déjà le quatrième jour depuis sa mort. Verset 40, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Quand il eut dit cela à Marthe, ils ont enlevé la pierre. Marthe a d'abord objecté en disant, « Seigneur, c'est déjà le quatrième jour. Il est déjà entré en décomposition. » Et elle se tint soudainement debout, à peu près entre ceux qui devaient ôter la pierre et le Seigneur. Mais quand le Seigneur lui a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors les hommes qui devaient ôter la pierre ne devaient plus attendre. Il est simplement dit au verset 41, « Ils ôtèrent la pierre. » Quand ont-ils enlevé la pierre? Quand le Seigneur a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors, à ce moment, il est facile d'ôter la pierre et elle n'est plus lourde. Amen. Alors, on la saisit et on reçoit la force nécessaire pour la mettre de côté. Quand le Seigneur est là pour manifester la gloire de Dieu et la puissance de Dieu, alors il est dit au verset 41, « Ils ôtèrent la pierre. » Mais Jésus leva les yeux vers le ciel et pria, « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Amen. » Quelle prière! Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Il n'avait même pas encore commencé à prier. Il commence avec les actions de grâce pour l'exaucement de la prière. Amen. Il ne commence pas avec des demandes et des supplications, mais il commence en levant les yeux vers le ciel et en priant. Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Si toi et moi, nous pouvions mettre au début de nos prières, amen, de ta prière, de ma prière, les actions de grâce pour l'exaucement, alors il serait totalement autrement de nos prières, de ta prière et de ma prière. Et ce n'est pas seulement à vous que je le dis aujourd'hui. Je me le dis aujourd'hui à moi-même et cela avec toute l'insistance possible. Car cette parole vient de devenir grande pour moi. Il leva les yeux vers le ciel et commença à prier avec ces paroles. Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Il nous donne un exemple ici, car c'est pour cela qu'en tant que fils de Dieu, il s'est manifesté à eux dans la puissance pour montrer à tous les fils de Dieu dans quelle position ils sont devant Dieu et que Dieu veut exaucer tes prières et les miennes. Amen. Il ne remercie pas pour l'exaucement à la fin, il remercie au début de la prière. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Si, au début de la prière, on peut déjà remercier pour l'exaucement, amen. Alors, il est dit ensuite, verset 42, « Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé pour le bien du peuple qu'il y a ici, tout autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Verset 43. Après ces paroles, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Alors le mort sortit. Amen. Les jambes et les bras enveloppés de bandages, et son visage était enveloppé d'un linge de sueur. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le venir. » C'est une chose merveilleuse qui s'est passée ici. Permettez-moi de le dire encore une fois. Si le Seigneur n'était pas venu ici, ce chapitre ne serait pas écrit. S'il n'était pas entré dans ta vie et dans la mienne, s'il ne s'était pas révélé à toi et à moi, s'il n'avait pas parlé avec toi et avec moi, alors nous ne serions pas assis ici aujourd'hui Et nous ne pourrions pas accorder la foi à ses paroles, son action et son discours. Amen. C'est pourquoi. Et pourquoi cela? Pourquoi nous sommes ici? Parce qu'il est venu dans ta vie et dans la mienne. C'est pourquoi toi et moi, déjà, dans cette parole, pour reprendre l'expression de Frère Branham qui dit que tous les fils et filles de Dieu sont une partie de la parole de Dieu. Il dit, vous êtes déjà dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'y être inséré. Vous y êtes déjà. Mais vous devez simplement reconnaître votre position en Christ et la prendre. Et si Dieu pouvait y arriver pour moi et pour toi et pour nous tous, s'il pouvait le faire, que nous puissions le voir, que nous, fils et filles de Dieu, puissions voir que nous sommes déjà ici dans la Bible, en relation avec Dieu, dans son royaume, dans son église, que nous sommes déjà dans le corps de Christ, des membres qui forment le corps du Christ, du point de vue de Dieu. Nous sommes déjà ici dans la Bible. Et si Dieu nous accorde sa grâce, et j'espère qu'il le fera très bientôt, et qu'il se révèle dans sa grande puissance et dans sa grande gloire. Puisse cette parole ou ces paroles que nous avons considérées ici ce soir atteindre nos cœurs et que nous puissions trouver grâce devant Dieu et dire aussi, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Si nous savons ce que nous devons prier et savons que la prière est dans la volonté de Dieu, notre Seigneur savait pourquoi il avait hésité. Les uns disaient, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas aussi pu faire en sorte que celui-ci n'ait pas besoin de mourir? Il a fait encore plus que cela. Il a pu ressusciter Lazare des morts. Cela a pris un peu trop de temps pour les hommes. Mais d'autant plus grande était le miracle que Dieu a fait par grâce. Nous croyons en un Dieu qui fait des miracles. Nous croyons en un Dieu qui guérit, qui sauve, en un Dieu véritable et vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tous les prophètes. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple, le troupeau de sa main, le troupeau que sa main conduit. Et je crois que nous pouvons dire qu'il nous a aussi instruits, enseignés en ce temps. Et nous avons compris l'enseignement. Amen. Et s'il manque quelque chose, quelque part, alors nous lui demandons de nous le donner, de nous donner la bonne compréhension par grâce. Amen.